Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Le lundi, nous commençons avec les entrepreneurs de Black Pyramid, entrepreneurs emmenés par Sekou Sissoko, qui nous rejoint en ce troisième confinement. Alors c'est vrai, le temps passe, mais on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir et les entrepreneurs sont toujours là pour continuer d'exister, de faire exister leurs entreprises. Et c'est toujours la raison pour laquelle vous continuez, Sekou, de les accompagner. Bonjour.
Bonjour Aïssa, ça va très très bien et comme tu dis, c'est le troisième confinement, mais les entrepreneurs sont toujours là, ils sont résilients, hein, ils font face à des difficultés financières, des difficultés économiques, etc. Mais ils sont là, comme l'invité d'aujourd'hui. Donc voilà.
Alors pourquoi ce choix de nous proposer aujourd'hui John Diemé?
Parce que ce n'est même pas un entrepreneur, c'est un serial entrepreneur. Et ouais. Je pense que pour toute la communauté afro comme entrepreneur en général, c'est un exemple parce qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Bon, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails,
d'accord,
mais tu lui poseras les questions.
Très bien, allons-y donc à la découverte de ce parcours exemplaire, celui de John Diemé qui nous rejoint. Il est entrepreneur, multi-entrepreneur même, oui. Sekou, français originaire du Sénégal. Il vient nous parler notamment de sa chaîne de barbershop, donc Groomers. Mon anglais est vraiment pas génial, mais je pense que je l'ai bien prononcé. Ouais. Merci de nous rejoindre. Alors justement, il y a quelques jours, le gouvernement annonçait que les salons de coiffure faisaient partie des commerces essentiels et qu'ils restaient ouverts. Est-ce que c'est le cas de votre chaîne de barbershop, John Diemé?
Bonjour à tous. Oui, c'est le cas, on est resté ouvert. On a eu peur, parce que après plusieurs rebondissements, plusieurs confinements, on était infecté beaucoup. Mais la dernière annonce, quand on nous a dit vendredi, c'était vendredi,
oui, qu'on
pouvait rester ouvert, on a crié.
Et vous avez beaucoup d'appels de clients. On a vu des reportages de salons de coiffure donc, qui ont été pris d'assaut d'appels, des clients qui étaient un peu paniqués. Ça a été le cas pour vous?
Ouais, on a été beaucoup paniqués parce que nous, on a un barbershop, donc c'est une nouvelle génération.
Ouais.
C'est des gens qui côtoient les salons bien plus souvent qu'un simple salon de coiffure. Donc ils en ont besoin. En plus, on a une majorité de clients afro ou de jeunes qui font des coupes un peu tendance.
Ouais.
Donc tu as besoin de te rafraîchir régulièrement, même si les boîtes de nuit, les sorties sont fermées. C'est des gens qui aiment être frais à la maison devant le miroir.
Parce que c'est vrai qu'au-delà du salon, c'est tout un concept qu'on va essayer de raconter dans un petit instant. Alors, il s'agit donc de salons dédiés aux soins pour hommes, des salons qui proposent donc des prestations qui vont du traitement traditionnel et pointu de la barbe à la coupe de cheveux moderne et structurée. Et je le disais, bien au-delà de ça, c'est tout un concept qui met en avant les cultures urbaines. Est-ce que vous nous racontez un peu le concept de Groomers?
En fait, le concept de Groomers, c'est, à la base, c'est un concept ici de quartier. On met en avant la coiffure selon nos codes, d'accord,
ouais.
Avec les contours, avec le type de cheveux afro, avec des maîtrises de tondeuse qu'on ne faisait pas forcément dans la coiffure simple, dans un salon de coiffure simple. Et on est arrivé avec un concept où on prend des jeunes éloignés de l'emploi,
ouais.
Qu'on reconvertit en coiffeur. Donc chez nous, on dit barbeur parce que on a des autres techniques qu'un simple coiffeur. On a un concept qui est différent que les simples coiffeurs. Et on ne dit pas qu'on est barbier non plus parce qu'on arrive avec des autres tendances, avec un autre savoir-faire que les barbiers. Donc en respectant leur métier, parce que nous, on arrive avec un métier où on va dire la plupart sont autodidactes.
Ouais.
Il
n'y
a pas forcément de formation. Aujourd'hui, on est en train de créer un nouveau mouvement qu'on structure nous-mêmes. Et Groomer, c'est ça, c'est la structuration de ce projet-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée même notre propre centre de formation où on va développer beaucoup plus de jeunes prodiges, parce que c'est des artistes.
Ouais.
Aujourd'hui, nos jeunes, c'est des artistes. On arrive à leur développer un talent qu'ils ont en eux. Et voilà.
Alors, on voit ces dernières années quand même un certain engouement pour ces concepts, ces barbershops en France, notamment. Et puis, on voit aussi que les hommes ont tendance à s'occuper un peu plus de leur apparence. Est-ce que c'est la vision que tu as également?
En fait, on va dire que nous, on a répondu à une attente qu'il y avait avec l'évolution de la vie, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec le pouvoir d'achat que les jeunes ont des quartiers.
Ouais.
On arrive à avoir un beaucoup plus grand besoin. Donc on répondait à cette attente. Aujourd'hui, on avait des salons de coiffure avant qui nous correspondaient, qui étaient un peu vieillissants, etc., par rapport à notre culture et qui correspondaient avec notre mode de vie. Ouais. Nos parents n'avaient pas forcément les moyens. On venait tous, dès la première immigration, ils ont arrivé, ils ont structuré les choses comme il fallait.
Ouais, on allait au foyer pour. Voilà, enfin, les garçons allaient au foyer.
On allait au Château Rouge, Château d'Eau, ouais. Des choses qui nous correspondaient. Aujourd'hui, on a grandi, on a un pouvoir d'achat. Dans un foyer, il y a plusieurs salaires. Donc aujourd'hui, on a des attentes qui sont un peu plus exigeantes. Donc c'est normal qu'on arrive avec un barbershop qui était beaucoup carré, ouais. À l'américaine un peu, parce que ça parlait beaucoup aux gens. Donc on arrivait avec cette demande. On a apporté, parce qu'aujourd'hui, l'homme, aujourd'hui, il a les moyens de prendre soin de lui. Avant, on avait forcément moins de moyens. Aujourd'hui, que ce soit des adultes ou des adolescents, etc., tout le monde se débrouille, tout le monde travaille un peu. Aujourd'hui, l'accessibilité à beaucoup de choses est plus fréquente,
ouais.
Avec les réseaux sociaux. Donc, on a juste répondu à cette attente-là.
Et puis, il y a l'influence également du sport, des voilà, footballeurs, du milieu urbain, du rap notamment.
Voilà, exactement. Parce que nous, en fait, on est vraiment une version... En fait, on est une version du hip-hop. Avec moi je disais que le hip hop c'est la voix, c'est le rap, les mains et les pieds c'est la danse, le corps c'est les streetwear, c'est les habits, et nous bah notre moyen d'expression dans le hip hop c'est la coupe de cheveux en fait, qui représente beaucoup de choses avec les high top à l'époque, avec les Will Smith, avec les locks,
ouais.
Etc. Donc c'est vraiment une forme d'expression. Donc voilà, on fait vraiment partie du milieu urbain et on accompagne les artistes, on accompagne les footballeurs, les artistes. Parce qu'on est en partenaire artiste, on est comme les nouveaux graffeurs en fait.
Ouais, c'est ça. Alors justement, quelles sont les prestations les plus demandées par les clients qui viennent
Les prestations les plus demandées sont les contours et les dégradés à blanc.
Ouais.
Donc les contours.
C'est quoi dégradé à blanc ?
Dégradé à blanc, en fait, c'est un dégradé où à la base c'est blanc et après vous avez, il y a une nuance où ça devient un peu gris, ça devient un peu les cheveux.
Ouais. Donc, c'est ça, y a une dye, on dirait, non ?
Non.
Ah, c'est pas ça. Ça fait penser à la French manicure.
C'est dégradé simple en fait. Quand tu vois quelqu'un qui a un dégradé, en fait, c'est dégradé. Nous on dit dégradé à blanc parce que la base elle est à zéro.
D'accord.
Voilà. Et sinon les contours. Voilà, c'est les choses qui sont le plus demandées. Je crois que vous savez, chez les afros, par exemple, les contours, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire une coupe, ouais. Un dégradé ou des waves, etc. Et puis, il n'y a pas de contours. Même ceux qui font des locks, ils font des contours. Parce que c'est la base.
Alors, est-ce que toutes les générations viennent chez Groomers ou seulement les jeunes ? Bon. Est-ce qu'il y a un profil particulier ?
En fait, toute génération, ils viennent, en fait, pour de vrai.
Parce que les anciens, au bout d'un moment, ils se disent bon.
Non, les anciens, ils viennent à la maison. Tu vois, ils sont à la maison. En plus, on a une vraie culture, en fait, dans nos salons de coiffure. C'est plus qu'un salon de coiffure. C'est vraiment, il y a un état d'esprit, il y a une convivialité, il y a un respect. Ça veut dire quand les vieux, ils viennent chez nous, on les appelle papa. Papa, c'est toi, on prend soin de toi.
Ouais.
On a un rapport avec grand frère, petit frère, au sein de l'entreprise, au même. Et enfin, avec les clients. Donc, les mamans, aujourd'hui, elles savent que leurs enfants, ils courent dans les barbershops. Tout le monde veut barbershop. C'est-à-dire qu'on a même des mamans qui sont de la génération de ma mère, qui ramènent leurs petits-enfants, etc. Ils savent que c'est l'endroit où il faut ramener l'enfant.
Il y a comme les maisons de quartier qui existent
exactement,
plus aujourd'hui.
Exactement, en fait. C'est exactement ça. En fait, on est vraiment en commerce de proximité. On vient pour créer du lien social au sein d'un quartier. On vient prendre les jeunes du quartier pour les faire participer, leur donner un espoir avec une vraie vision. Et que ce soit en étant acteur et spectateur, parce que quand t'es acteur, t'es barbeur.
Ouais.
Quand t'es spectateur, t'es client. Et on essaie de créer ce lien-là.
Qui permet de susciter des vocations dont on va parler dans un instant, parce voilà. Qu'il y a aussi l'aspect formation qui est important. Donc ces jeunes, lorsqu'ils viennent, ça leur permet d'observer, de se projeter et se dire « moi aussi, je peux être un artiste ».
Exactement.
Alors il y a également l'équipe en place. Je sais que c'est très important justement c'est l'équipe, qu'elle soit formée. La formation est très importante dans les piliers de Groomers. Alors déjà, comment ils sont recrutés, quel est le profil des barbiers que vous recrutez, et quelle est la formation qui leur est faite en plus de leur savoir déjà?
À la base, comment recruter? On recrutait un peu avec le bouche à oreille. Parce qu'aujourd'hui, notre création de l'entreprise, elle a été formée vraiment et ta famille. Donc, on prenait vraiment des jeunes autour de nous, ils ont des difficultés. Donc, je sais pas, peut-être qu'Aïssa, tu avais un petit frère qui était pas forcément voué à faire quelque chose,
ouais.
Qui cherchait. Mais on allait le chercher, on le prenait autour de nous. On lui créait une formation autour d'abord de la pédagogie, d'abord des cultures, la culture urbaine, le grand frère, le petit frère. Pourquoi on est là, c'est quoi du respect, etc.
C'est l'éducation, en fait.
Oui, exactement. C'est d'abord sur les valeurs, etc. Et après, on leur fait la formation sur la coiffure. On leur fait découvrir un métier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on oublie que dans cette société, on est beaucoup dans une société de consommateurs et on oublie qu'on est des humains. Et avant tout, on a besoin de respect, on a besoin de se connaître, on a besoin de faire un développement personnel. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail. Nous, on est vraiment une société basée sur l'humain. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une connotation vraiment afro, parce que je suis afro et je me bats pour la communauté. Mais notre but, c'est de s'ouvrir à tout le monde et tout le monde vient. On a des latinos, on a des chinois, on a des asiatiques, on a un peu de tout. Mais c'est des gens sur lesquels on se reconnaît autour des valeurs qu'on inculque.
Et des valeurs qui t'ont été transmises, je suppose.
Ouais, je suis né dedans. En fait, moi, je suis pas schizophrène. Chez nous, on dit qu'on doit faire la part des choses entre le travail et le personnel. Et ça n'existe pas, ça. Pour de vrai, je suis la même personne. Pour de vrai, je suis la même personne. Quand je suis chez moi, je suis père de famille. Quand je vais au travail, je suis toujours le père de famille. Donc aujourd'hui, on essaie de faire en sorte qu'on soit en adéquation avec qui nous sommes. Ouais. C'est vraiment ça qu'on met en avant. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, sont perdus parce que peut-être que le dehors, ça leur correspond pas avec ce qu'on leur a inculqué à la maison. Donc on essaie de retransmettre ça. Après, on a des formateurs qui sont avec moi depuis 10 ans, des mecs comme Byron, des DSK, des Pablito. On a beaucoup de gens qui sont là avec moi depuis le départ, et ça fait peut-être 10 ans. Et on a eu cette pédagogie, on a eu cette chance d'avoir reçu par nos grands frères.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, on n'a rien inventé. On a juste ces choses-là qu'on retransmet à nos enfants et à nos petits frères. Donc on leur transmet d'abord les valeurs, après ensuite la coiffure. On prend toute personne, la plupart de nos coiffeurs, ils n'étaient pas coiffeurs, ils n'avaient jamais touché une tondeuse. Donc on les prend, on les forme, on leur donne la confiance. Avec le temps, ils y arrivent. On n'a jamais eu échec pour de vrai. Ouais, non. On a formé peut-être, avec la chambre des métiers, on a formé peut-être 200 personnes. Mais avec nous, en interne, on est peut-être 40 employés. Bah, la plupart, on va dire les 32, ils n'avaient jamais touché une tondeuse. Aujourd'hui, on n'a pas l'échec. C'est-à-dire que... Et la plupart sont embauchés chez nous. On leur donne cette opportunité d'avoir une embauche, de croire en quelque chose. On leur donne l'accessibilité aussi à l'entrepreneuriat. Je suis proche d'eux. Je leur montre comment on se bat. Parce que vous avez vu, aujourd'hui, c'est moi qui suis africain numéro un. Mais je suis là pour représenter toute mon équipe. Je suis juste la porte-parole. Mais en fait, eux, ils sont ici avec moi. Et je leur montre les difficultés d'entrepreneuriat. On a des difficultés, des fois, dans les payes. On a des difficultés, des fois, dans le loyer, etc. Ils sont au courant de tout. Ils sont
touchés. C'est une famille, en fait.
Ouais, exactement.
Alors justement, il s'agit d'une chaîne, hein, Groomers, ce concept de barbershop. Alors il y en a un à Saint-Denis, au centre commercial Basilique, il y en a un à Arcueil, dans le 94, un à Paris, dans le 2e, rue Saint-Sauveur, il y en a un à Chelles, dans le 77, et un à Angers. Et je sais qu'il y a également l'envie de créer un réseau franchisé, appelé Réseau Entrepreneur. Tu nous en parles ?
Oui, mais en fait, le réseau d'entrepreneurs, on a envie d'accompagner beaucoup de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Tout le monde pense qu'il peut être entrepreneur, mais quand on arrive dans les difficultés, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent debout. Donc aujourd'hui, on sait que nous, on a compris les vices du métier. On a compris qu'est-ce que c'était le monde de la coiffure. On a compris qu'est-ce que c'était l'entrepreneuriat. Et on accompagne, en fait, des gens qui ont la même mentale, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Malheureusement, j'ai dû refuser beaucoup de contrats parce que on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde.
Ouais.
Parce qu'on est beaucoup sur l'humain, on a beaucoup un concept. Et bah, tout ça, ça doit être sélectif.
Il faut qu'il y ait le feeling entrepreneurial,
voilà,
en fait.
Exactement. Ouais. Et même la culture d'entreprise, celle qu'on a, tu vois. Vraiment famille, etc. Se battre pour les autres. Faire comprendre que tout le monde a droit à une évolution. Parce que le but, c'est pas que nos employés restent toutes nos vies, nos employés. En plus, j'ai aucun employé. J'ai que des petits frères ou des grands frères. Il y a que des gens qui nous accompagnent dans un projet. Parce que sans eux, je suis rien, pour de vrai. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est important de le mettre au centre. Faire comprendre qu'avec nous, il y a personne. Chez nous, il y a que des entrepreneurs, en fait. Parce que tout le monde se lève et attend son tour pour être capitaine, c'est tout. Donc, le réseau d'entrepreneurs, c'est aussi ça. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont prêts à partager, des gens qui sont prêts à donner, des gens qui sont prêts à sacrifier, parce que si on veut gagner la guerre, il ne faut pas avoir peur de mourir. Donc, voilà.
Alors, on a beaucoup parlé de mindset, hein. Justement. Il y a ce concept de la cage. Ça m'a beaucoup plu, hein, de le découvrir, en fait, lorsque vous faites des événements à l'extérieur, notamment. Il y a cette cage, un barbershop éphémère reproduit au sein d'une cage. Est-ce que tu nous parlais de ce concept ?
Ouais, en fait, le concept, c'est le fait qu'on était fort, on est très fort en communication. Le but, c'est de choquer les gens et de les interpeller, parce qu'aujourd'hui, on est tous dans une sensibilité de la vie. On voit le tournant de la vie. Donc aujourd'hui, dans ma communication de groomer, c'était faire en sorte de montrer notre côté urbain et comment on peut choquer les gens en leur montrant qu'on est capable de faire les choses. La cage, c'est un peu, ça représente un peu le milieu carcéral,
ouais,
qui représente un peu les quartiers dans lesquels on vit. Moi, j'ai jamais été en prison, mais je connais beaucoup de gens qui ont été en prison et on n'est pas à l'abri. On peut y aller avec tout ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, on
peut être aussi l'enfermement mental.
Voilà, exactement. Et en fait, c'est ça. En tout cas, dans les quartiers, on a l'impression qu'on a des barreaux et qu'on ne peut pas aller au-delà de tout ça. Bah, la cage, c'est un peu pour représenter ça. Donc, on a mis une cage parce que nos salons ont une culture urbaine. Donc, la cage, c'est emblématique. Et quand on la ramène avec beaucoup d'ambition et avec beaucoup d'émotion pour qu'on transmet aux gens. Et c'est notre meilleur moyen, c'était notre première communication sur gros mœurs urbains. Parce qu'après, j'ai un autre concept. Mais je sais pas si on va en parler. J'ai un autre
si tu veux en parler, vas-y.
J'ai un autre concept, ça s'appelle la case.
La case.
Donc, ouais, parce que gros mœurs barbershop, c'est urbain.
Ouais.
Et gros mœurs lab, c'est culturel.
Ouais.
D'accord, c'est deux concepts un peu différents. Et donc, pour représenter Gros Mœurs Barbershop, qui est très street et urbain, on a créé la cage, qui est une prison, et on fait un barbershop éphémère. Et pour représenter le côté culturel, qui est afro, c'est la case, c'est une case de nègre.
Ouais.
Et on explique à l'intérieur, on a fait une vraie case de nègre avec, à l'identique, avec vraiment, c'est une case, allez voir sur Internet. Et en fait, ça représente comment les barbershops sont formés après l'esclavage.
Ouais.
Aujourd'hui, on n'est pas là pour se plaindre, voilà, on sait ce qu'il y a eu avec les. Avec l'histoire, mais aujourd'hui notre but c'est d'impacter les gens pour leur montrer qui nous sommes, comment on s'est construit, même
ouais.
après des atrocités, comment on a réussi à se construire. Et la case c'est montrer comment les barbershops ils sont nés après l'esclavage.
Super concept. Alors au-delà justement du salon, Groomer, ce sont aussi des coffee shops, des chili bars. Et il y a également le drugstore. Tu nous en parles?
Ouais, bah en fait, c'est le G-Lab. C'est dans le G-Lab, c'est rue Saint-Sauveur, au 22 rue Saint-Sauveur. On a le côté barbershop et on a le côté coffee shop. Le coffee shop, on fait du thé d'Afrique, on fait du café d'Afrique. On essaie de faire des clubs de lecture avec un club de lecture qui s'appelle Read Club. Où on essaie de, un dimanche par un mois, on fait une découverte d'un livre afro avec les auteurs afro pour les jeunes, pour nos enfants. En fait, c'est pour leur faire découvrir un peu parce que vous savez, je pense que le combat il commence dès enfants sur le développement, etc. C'est dès maintenant qu'on montre aux nos enfants comment on construit les choses. Et le G-Lab, le drugstore, c'est vraiment pour ça, pour mettre en avant des artistes. Il y a aussi des artistes qui postent, qui exposent leurs photos, qui exposent des livres, etc. Donc voilà, on a fait beaucoup de choses. Même on a fait la dernière fois une exposition sur Assa Traoré, la vérité pour Adama. Donc voilà, on fait un grand big up à Assa Traoré parce que le travail qu'a fait, c'est vraiment, 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 vraiment les liens comme nos petites sœurs ou nos grandes sœurs sont, ou nos femmes.
Mais c'est génial comme concept, John. Alors on va essayer de raconter rapidement le parcours. Alors tu es né dans le 9e arrondissement de Paris, tu as grandi dans l'Aisne, puis en Seine-Saint-Denis.
Ouais.
Alors tu es aussi à l'origine de plusieurs projets, notamment le Nice Air, Maridier, l'agence de modèles Lixia et le barbershop 235 Barber Street.
Je
connais tout. Merci.
Je connais tout ma vie.
Alors tu nous racontes un peu ta trajectoire, ton parcours.
Ah ouais, t'as connu toute ma vie, là. Le parcours, j'ai grandi à Villers-Cotterêts dans le 02, la première partie de ma vie. Après, j'ai couru dans le 93 à Aulnay-sous-Bois avec mon cousin. Je suis un pur produit de la banlieue. Je connais tout le monde dans la banlieue. J'ai des cousins tout partout. Je suis africain à 100%.
Africain à 100%? 100%,
je suis sur la terre, je suis sénégalais, je suis africain. J'suis un enfant de la terre.
Ouais.
Je suis là avant les frontières. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai commencé à l'entrepreneuriat avec. D'abord, j'ai commencé à découvrir l'entrepreneuriat avec un cousin à moi que je connaissais pas. Que moi, je connaissais pas l'entrepreneuriat. J'étais entrepreneur depuis que j'ai 3 ans parce que je suis un débrouillard depuis que je suis tout petit. Et l'entrepreneuriat, c'est.
À 3 ans, tu vendais quoi?
En fait, l'entrepreneuriat, c'est savoir donner pour recevoir. L'entrepreneuriat, c'est comment on crée de rien. Pour de vrai. Moi, depuis tout petit, je savais que j'allais faire quelque chose. Ça veut dire que mes moments, je les donnais à tout le monde. Et quand j'avais besoin de quelque chose, tout le monde était là pour moi. Tu vois, ça veut dire que c'est ça l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pas tu te lèves un jour et tu dis allez, je vais faire. Si t'as jamais rien donné et t'as pas d'argent, quand ton argent il finira, tu pourras plus rien faire.
Là, c'est un état d'esprit donc du coup.
Voilà, c'est vraiment un état d'esprit.
Il y a des vendeurs et des entrepreneurs dans ta famille ou pas?
Ouais, tout le monde est débrouillard chez moi. Chez moi, tout le monde est débrouillard. Ça veut dire que c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est la débrouillardise. Le forme entrepreneuriat, c'est professionnel. Donc on l'a professionnalisé avec un cousin à moi qui avait ouvert dans le 19e la Rizière du Salou. C'était un petit restaurant africain, fast-food africain.
Ouais.
Il était un peu dans les premiers. Et en fait, moi, j'étais vraiment fan de lui. Il s'appelle Youssouf Djemé. C'est mon grand cousin. J'étais fan de lui parce que...
Modèle.
Ouais, c'est un peu un modèle. C'est mon modèle même, parce que lui, il était vraiment dehors, il était à l'université, il connaissait des choses que nous, on connaissait pas. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, tu sais, une fois, on m'a dit, donne-moi un exemple de toi de réussite, etc. Puis, j'avais dit Jordan, et puis en fait, c'est faux, quoi. En fait, c'est le modèle de réussite, c'est mes cousins, c'est mes grands frères, des gens qui sont accessibles, avec qui je connais leurs vraies histoires. Des fois, Jordan, je connais pas son histoire, et pour de vrai, quand je regarde bien son histoire, peut-être qu'il est méchant, il me correspond même pas.
Ouais. Mmh.
Alors qu'aujourd'hui, quand je vois mon cousin, la réussite, elle n'est pas financière. La réussite, c'est de faire quelque chose. À partir du moment que tu as réussi à faire quelque chose que toi, tu voulais, pour nous, tu as réussi. Et c'est ce qu'on a besoin, en tout cas. Aujourd'hui, il faut comprendre que chacun d'entre nous, on est responsable de nos petits frères ou des gens qui sont autour de nous. Parce que des fois, on a des gens qui sont fans de vous. Moi, chez moi, je suis une star. Tu vois, je suis le responsable que je suis. C'est-à-dire que quand les gens, ils me voient, ils me kiffent. Et moi, je les kiffe. Je leur rends ça. Tu vois, c'est ça qui est important. Savoir qu'autour de vos proches, vous avez des vraies stars. Tu vois, moi, j'arrive pas à prendre une photo avec quelqu'un de connu. Tu vois, ça me gêne. Parce que je suis connu, moi aussi. Tu vois, ça me gêne. Tu vois, et j'espère que tout le monde a cette estime de soi-même pour qu'on puisse être élevé.
C'est important.
Tu vois. Donc, avec mon cousin, c'était ça. Je l'ai rencontré. Après, je suis parti avec un autre grand à moi qui faisait les voitures, etc., qui lui aussi était débrouillard. Je me suis rapproché de lui. J'ai regardé comment il faisait. Après, j'ai fait les voitures. Après, je m'ennuyais. Les voitures, ça m'ennuyait. Et puis, j'avais créé l'agence Lixia Agence. C'est à un moment, c'était une agence de modèles où les clips, ils commençaient à prendre prendre de l'ampleur.
Ouais.
Facebook, ça prenait de l'ampleur, etc. Je connaissais beaucoup de filles. Et je me suis dit, attends, on va lancer ça. Donc, on l'a fait pendant quelques années. Pendant un ou deux ans, ça a bien marché. Ça a créé le buzz. Ça n'existait pas encore, les influenceurs, tout ça, à l'époque, tu vois. Il n'y avait pas encore cet engouement. Et nous, on avait vraiment fait une équipe de filles qui rient un peu, tu vois. Mmh. Ils arrivaient. Après, dans cette évolution-là, la plupart des filles, elles étaient coiffeuses. J'avais une coiffeuse, donc j'ai repris un centre de coiffeur qui s'appelait Nice Hair à Audley. Ça nous a donné un échantillon de ce qu'on était capable de faire. Après de ça, j'ai dit non, il faut que j'aille à Paris pour prendre beaucoup plus d'ampleur. J'ai créé Maréjib by Elixia. C'était un centre de coiffure qui mettait en avant les femmes.
C'était très connu, hein, ce salon.
Ah, merci. Ouais. Ouais. On est arrivé avec ce truc de. Tu sais, quand j'ai fait Elixia, c'était un peu sur le physique. C'était basé beaucoup sur le physique. Et après, je me suis rendu compte que le physique, à un moment, ça commence à prendre une ampleur qui ne me correspondait plus.
Ouais.
Avec mes principes et mes valeurs. Donc, je me suis orienté en disant aux filles qu'aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire en sorte qu'on va pousser les femmes à l'entrepreneuriat. Déjà à l'époque. Donc, j'avais mis ma petite sœur en avant. Marie-Dié, c'est parce que ma petite sœur s'appelait Maria Madjemé.
D'accord.
Donc, je l'ai mis en avant pour dire que c'est elle autour du salon que les femmes pouvaient. Et en fait, ce qu'on a créé, c'est un salon de coiffure, mais qui était fréquenté par beaucoup de gens. On a fait beaucoup d'événements parce que c'était un grand salon.
Ouais.
C'était vraiment basé sur les femmes afro et sur tout type de cheveux. Et on essayait de créer, on a fait les castings de la Black Fashion Week, on a fait des défilés, on a fait des vide-dressing, on a fait des soirées entrepreneuses. On a vraiment créé un engouement autour de la femme pour faire en sorte qu'on puisse dire qu'on est capable et qu'on ait des endroits qui nous correspondent. Tu vois, parce qu'avant, on avait des endroits vieillissants, comme je dis. Mais là, avec Marie-Dié, on avait réussi à faire comprendre à nos femmes qu'on a droit aussi à quelque chose de luxueux.
Oui, ça avait suscité beaucoup de vocations parmi les jeunes femmes afro qui entreprenaient à l'époque.
Voilà. Et en tout cas, voilà, c'était un peu notre réussite. À partir de ça, j'ai rencontré un ami à moi. Et après, Elixir Agence, c'est justement un grand big up à Doussaï, parce que c'est avec lui que j'avais fait. Et voilà, c'est vraiment, j'oublie souvent de dire le nom de mon gars là, mais en tout cas un grand respect à lui, parce que c'était quelqu'un qui m'a beaucoup aussi accompagné, et un grand respect à lui. Et quand j'ai fait Marie-Dié, après j'ai rencontré un autre entrepreneur qui lui était pas loin, il avait une boutique de vêtements. Et il s'appelle Sambou Sissoko. Et on avait, j'avais, tu vois, comme toi là. Et on avait une volonté de faire quelque chose ensemble, tu vois. Et un jour, elle m'a dit, ouais, pourquoi on fait pas un, moi, j'avais fait que femme, pourquoi on fait pas homme? Je lui ai dit, ouais, moi, le concept, je l'ai, sauf que j'ai plus les moyens. Pour l'instant, je fais d'abord les femmes, je développe. Et lui, il me dit, moi, j'ai les moyens, vas-y, viens, en fait, tu vois. Et en fin de compte, Sambou Sissoko, c'est quelqu'un d'important dans mon parcours parce que, en fait, tu sais, dans l'entrepreneuriat, des fois, tu te rends compte que t'as beaucoup de galères. Et dans ces galères-là, des fois, tu restes tout seul et tu penses que personne est là pour t'aider parce que tu parles pas, en fait, tu vois. C'est aujourd'hui, des fois, on s'en rend compte qu'on dit, ouais, on est beaucoup, mais je suis seul. En fait, t'es seul parce que tu le veux, en fait, pour de vrai, tu vois. C'est aujourd'hui, il y a des gens qui sont bienveillants. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont malveillants, mais Dieu, je pense qu'elle a fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses, tu vois, oui. Sur votre parcours. Et toutes choses qui sont mauvaises, dans tous les cas, si Dieu vous les a mis sur votre chemin, c'est que c'est une épreuve. Donc, il n'y a rien qui est mauvais, en fait, tu vois. Et en fait, je discutais avec lui. Une fois, j'étais en galère et il m'a fait un geste que je lui redevais ma vie, en fait. Tu vois. J'étais en galère, je lui ai parlé d'une galère. Il a débloqué ma situation. C'était petit pour lui, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était beaucoup. J'ai dit, toute ma vie, je serais reconnaissant. Et j'ai dit, allez, viens, on va faire le projet ensemble. Et quand le projet sera au sommet, je m'arrache. Il m'a dit, non, t'es fou, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, parce que je connais l'humain. Quand il n'y a pas d'argent, on est ensemble, mais quand il y a de l'argent, on va se diviser. Et moi, je suis un capitaine et toi, t'es un capitaine. Je vais t'accompagner dans le projet. Et chez nous, on dit, ce que tu veux pour toi, tu le donnes à ton frère. Donc j'ai dit, vas-y, je vais t'accompagner, je vais tout faire, on y va. Il y a eu des moments difficiles qu'il ne croyait pas forcément. J'ai dit, crois en nous et on y va. On a réussi à faire 235 Barber Street dans un petit quartier. On était fiers, ça a ramené plus de 100 clients par jour. On a ramené une évolution, une grande évolution dans Paris. On a créé.
C'était au début de l'arrivée des barbeurs
voilà.
En région
Paris. On est vraiment le premier en fait. Tu vois. On a vraiment apporté quelque chose de qualité. On a apporté un nouveau. On n'a rien inventé, on a juste été l'évolution du château d'eau en fait. Tu vois. C'était vraiment cette évolution qui nous correspondait, qu'on avait besoin. On a réussi à créer ça. Aujourd'hui, il y a tous les barbershops. Aujourd'hui, dès que tu as un salon de coiffeur, tu dis c'est barbershop. Dès que tu es coiffeur, tu dis t'es barbeur. Tu vois. Donc ça, on en est un peu fiers. Après, maintenant, à partir de ça, quand je suis arrivé à un certain moment, j'ai dit à mon pote, t'as vu, je vois pas trop le bout du tunnel. Moi. Tu vois, on a fait, c'est bien. Faut que j'aille me former parce que ce qu'on a fait, on était autodidacte. Mais autodidacte, ça veut pas dire pas apprendre du tout. C'est-à-dire apprendre par soi-même. Donc, je suis parti faire une petite formation avec une association qui s'appelait Yes Academia. J'ai eu un gros pick-up à eux qui m'ont permis à faire le développement. Moi, j'ai fait du développement, de la stratégie, la création d'entreprise. En fait, moi, quand je suis parti là-bas, j'ai fait un mois, j'avais déjà fait, moi. Les gens là-bas, ils n'avaient jamais rien fait. Mais en fait, ils m'ont donné une force de fou parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'était la va-vite. C'était, je ne comprenais pas. Tu sais, je payais un comptable comme ça, je ne comprenais même pas les chiffres, je ne connaissais rien, tu vois. J'étais entrepreneur, mais si demain tu m'étais face à des vrais entrepreneurs, j'avais honte en fait pour le vrai. Tu vois, je connaissais pas, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais réconforter avec mes gars du quartier, enfin, cry, je suis chaud, que tu connais. Quand t'es un mec, tu voyages un peu, rien que dans la banlieue, hein, tu voyages un peu, on te respecte, on te dit non, lui, il est connecté, tu vois. Mais en fait, quand je connaissais rien pour le vrai, je pouvais pas m'asseoir devant des vrais entrepreneurs et parler en fait, tu vois. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon pote, vas-y, je te cède la boutique. Je suis parti faire les sessions de part et je lui ai donné mes parts. Tu vois, je lui ai tout donné, etc. Et bonne continuation. Et je l'ai accompagné. On est toujours en bon terme, etc. J'ai dit, moi, il est temps que je fasse mon truc. Et quand je suis revenu, je me suis restructuré. J'ai créé une holding, une grosse société qui s'appelle Afro-PN Retail Group, où je suis parti chercher des investisseurs. Je suis parti prendre mes cousins. Il y a Zar, qui a sa marque Elixir aujourd'hui, que je big up fort parce que c'était le premier qui m'a fait confiance. Il y a Boniface & Show, il y a Manu Ibanez, il y a Michael Roots, il y a Papis Didjou, il y a beaucoup de gens qui sont avec moi, tu vois. Il y a Moussa et Koli. Et j'ai oublié, il y a quand même Couture de la Barbe. Il y a beaucoup de gens. En fait, j'ai pris beaucoup de gens, tu vois, autour de moi, qui avaient des finances. Moi, j'avais les idées. Je suis parti les voir avec mon projet. Et Boniface Sancho, qui est mon gars sur le terrain, et que je suis parti voir, je lui ai dit, écoute, j'ai un projet. Maintenant, on va faire des barbershops, mais on va les faire avec une mentalité, avec des valeurs qu'on va transmettre aux jeunes. On va créer une chaîne de barbershop avec un esprit urbain. Donc on a créé Groomer, c'est fait que sur des trucs urbains. La logistique, l'architecture, c'est que quand tu rentres, il y a une cage, c'est pour montrer la prison. Il y a les gyrophares pour dire qu'il est temps qu'on se réveille, c'est les keufs. Il y a des pièces, c'est un sou. Tout est fait en bois et en fer pour montrer que c'est nous. Tous les barbershops, on les a fait nous-mêmes. Nous-mêmes avec mon équipe, etc. On les a tous fait nous-mêmes pour montrer, en fait, pour mettre une âme dans ce qu'on fait. C'est important. On fait participer aussi les barbeurs, parce que c'est important qu'ils ont cette sensibilité de savoir comment c'est dur de faire les choses et comment on sacrifie pour faire quelque chose.
On voit que tu es un véritable passionné. Je pense qu'on pourrait parler.
Ah ouais, mais
En tout cas, franchement, bravo. Franchement.
Merci.
Non, on peut qu'encourager en fait. Bravo, John Dimé, pour tout ça. Alors, je sais même plus comment commencer parce que la pub va arriver dans 3 minutes. Oui. C'est Koussi Soko. Je vais te laisser juste dire un petit mot, ce que ça t'inspire. Je te vois le regarder avec de grands yeux.
Bah écoute, Aïssa, c'est John, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est comme il le dit, c'est un grand frère. Et il était là depuis mes débuts. Je sais qu'avec TUP Entrepreneur, ce qu'on faisait au début, c'était des événements. Et je sais qu'à mon premier événement, je lui avais envoyé un message et enfin pour moi c'était impossible qu'il vienne. Et c'est même pas qu'il a cherché à comprendre qu'est-ce que tu fais, etc. Il a dit vas-y, on va te donner la force. Et il est venu, il a été intervenant comme ça. Je venais de nulle part comme ça. Et quelques temps après, je voulais faire un événement également et il m'a mis à disposition son salon pour pouvoir faire mes événements, etc. Donc c'est quelqu'un, enfin c'est pas un entrepreneur pour moi, c'est mon grand frère. c'est un grand frère à qui je tiens et qui m'inspire vraiment à travailler à chaque fois quand je suis avec mes équipes, etc. Je lui dis, bah, regardez John, il m'a dit quoi, etc. Voilà. Faut qu'on bouge vraiment et ça me donne vraiment la force. Et franchement, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté, pour tout ce que tu fais, dans tes salons, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver aussi. Et vraiment, félicitations et merci pour ce que tu es.
Un entrepreneur à encourager. Donc, n'hésitez surtout pas. Il y a le site internet Groomers, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez également tester les prestations. Comment on peut conclure, John Jamie? Je sais qu'on a dit beaucoup de choses qu'on pourrait encore discuter très longtemps, mais petite conclusion, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer aux auditeurs qui nous écoutent ce matin sur Africa Radio?
Bah, une longue vie à eux. C'est tout, longue vie à vous.
Ok. On va finir comme ça. On te retrouve sur les réseaux, on retrouve également l'actualité des salons sur les différents réseaux, et puis comme c'est ouvert, bah, on peut venir se faire chouchouter.
Ouais.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi de nous avoir reçus.
À très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.
Très vite. Africa.